Vous écoutez On lit pour vous.
Les grandes réformes du Code criminel visant à protéger la population canadienne ont désormais force de loi. Un communiqué de presse du ministère de la Justice Canada paru le 7 juillet 2026 sur le site du gouvernement du Canada. Trois projets de loi visant à réformer les lois sur la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine, à protéger les victimes et personnes survivantes d'actes criminels, à assurer la sécurité des enfants face aux personnes prédatrices et à renforcer les mesures de protection contre les crimes haineux ont été adoptés en moins de 8 mois. Cette page web traite de sujets qui peuvent causer de la détresse. Si vous ou une personne de votre entourage avez besoin de soutien, nous vous encourageons à demander de l'aide. Des ressources sont offertes à l'adresse canada.ca/santé-mentale. Le gouvernement du Canada tient sa promesse de protéger la population canadienne contre les actes criminels violents, la violence entre partenaires intimes, les féminicides et les crimes haineux. Il s'agit de l'une des réformes les plus importantes du Code criminel depuis des générations et nous l'avons menée à bien avec l'urgence nécessaire pour assurer la sécurité de nos collectivités, a déclaré l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada. Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a souligné les 3 textes législatifs adoptés en juin en vue de réformer le Code criminel à Surrey, en Colombie-Britannique. Depuis l'automne 2025, le gouvernement du Canada a déposé 3 projets de loi pour renforcer le droit pénal. La loi visant à lutter contre la haine, la loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine, ainsi que la loi visant à protéger les victimes. Fruit de consultations exhaustives et d'une étroite collaboration avec des partenaires de tout le pays, notamment des victimes et des personnes survivantes, ces mesures permettent aux forces de l'ordre et au système de justice de disposer d'outils plus efficaces pour intervenir, prévenir les préjudices et veiller à ce que les crimes graves soient sanctionnés par des peines sévères. Réforme importante du système de mise en liberté sous caution et de détermination de la peine. Rendre les lois sur la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine plus strictes pour les crimes violents et la criminalité organisée, l'introduction par effraction, le vol d'automobile et la traite de personnes. Rendre les lois sur la détermination de la peine plus sévères pour les vols d'automobile et les introductions par effraction avec violence, pour l'extorsion et les incendies criminels, ainsi que pour la récidive violente. Introduire des circonstances aggravantes pour les cas de crimes commis à l'encontre des premiers secours ou du personnel des transports en commun, le vol à l'étalage organisé et les dommages causés aux infrastructures essentielles. Faire cesser la violence entre partenaires intimes et les féminicides. Qualifier le féminicide de meurtre au premier degré, soit l'infraction d'homicide la plus grave. Disposer d'outils plus efficaces pour intervenir de façon plus précoce face à la violence sexuelle, à la violence fondée sur le sexe et à la violence entre partenaires intimes avant que cette violence ne devienne mortelle. Disposer de nouvelles infractions au Code criminel relatives au contrôle coercitif dans les relations intimes et à la menace de diffusion non consensuelle d'images intimes, y compris les hypertrucages d'ordre sexuel. Protéger les enfants contre les personnes prédatrices. Disposer d'outils plus efficaces pour protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle, la maltraitance en ligne et les personnes prédatrices qui ciblent les enfants au Canada et à l'étranger. Imposer des peines plus sévères pour les infractions graves d'ordre sexuel, dont les agressions sexuelles, l'exhibitionnisme, le voyeurisme, la diffusion non consensuelle d'images intimes, y compris les hypertrucages d'ordre sexuel et l'obtention de services sexuels auprès d'une personne âgée de moins de 18 ans. disposer de nouvelles infractions au code criminel pour le fait de menacer de diffuser du matériel d'abus et d'exploitation pédosexuelle et pour la diffusion de représentations de bestialité. Rétablir les peines minimales obligatoires et remédier aux délais judiciaires. Rendre les peines minimales obligatoires d'emprisonnement sévère, applicables et constitutionnelles. Clarifier les directives sur la manière de traiter les délais judiciaires et d'y remédier, y compris dans les affaires d'agression sexuelle. Renforcer les droits des victimes à un traitement respectueux et à la prise en compte de leur intérêt à bénéficier d'un procès dans des délais raisonnables. Renforcer des mesures de lutte contre la haine et l'intimidation. Disposer d'outils plus efficaces pour lutter contre les crimes motivés par la haine et pour protéger nos collectivités. Disposer de mesures de protection plus efficaces contre l'intimidation et l'entrave à l'accès aux lieux de rassemblement communautaire, y compris les lieux religieux, les écoles et les centres communautaires. En moins d'un an, le nouveau gouvernement du Canada a mis en œuvre l'un des programmes de réforme de la justice pénale parmi les plus ambitieux des dernières années, notamment 3 grands projets de loi visant à renforcer les mesures de protection contre les crimes haineux, à rendre les lois sur la mise en liberté sous caution plus strictes et les peines plus sévères, à mieux protéger les victimes et les personnes suivantes, ainsi qu'à assurer la sécurité de nos enfants face aux personnes prédatrices. Comme les menaces évoluent, le gouvernement du Canada continuera de s'empresser pour renforcer les lois canadiennes et pour assurer la sécurité de la population au Canada. Citation. Toute personne au Canada mérite de se sentir en sécurité chez elle, au sein de sa collectivité et dans les lieux religieux, et notre gouvernement tient cette promesse. Ces réformes historiques renforcent le code criminel en prévoyant des mesures de protection plus efficaces contre les crimes haineux, la violence entre partenaires intimes, l'exploitation sexuelle des enfants et les menaces émergentes telles que la sextorsion en ligne et les hypertrucages d'ordre sexuel, tout en rendant la mise en liberté sous caution plus difficile à obtenir pour les personnes accusé d'infractions violentes à plusieurs reprises et en imposant des sanctions plus sévères pour les crimes graves. Je suis reconnaissant envers nos partenaires des provinces, des territoires et des communautés, dont la collaboration a permis de renforcer ces réformes. Ensemble, ces changements constituent l'une des réformes les plus importantes de la justice pénale depuis des générations et contribueront à renforcer la sécurité pour l'ensemble de la population au Canada. L'honorable Sean Fraser, CPCR député, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique. Fait en bref. Le 15 juin 2026, à la suite de consultations exhaustives, la loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine a reçu la sanction royale. La plupart des mesures de réforme sur la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine entreront en vigueur le 15 juillet 2026. Le 18 juin 2026, la loi visant à protéger les victimes a reçu la sanction royale. La plupart de ces réformes entreront en vigueur le 18 juillet 2026. Le 18 juin 2026, la loi visant à lutter contre la haine a reçu la sanction royale. Ces réformes entreront en vigueur le 18 juillet 2026. Ces modifications apportées au code criminel seront efficaces seulement si les gouvernements provinciaux et territoriaux aident à leur mise en œuvre. Cela inclut notamment d'administrer et de pourvoir en ressources de manière adéquate le système de justice, y compris les services de police et les services de poursuite relevant de leurs compétences, les tribus des cautionnements, les programmes de surveillance des personnes en liberté sous caution, les tribunaux provinciaux, les prisons et les services d'aide aux victimes. Le gouvernement fédéral remercie ses partenaires des provinces et des territoires et se réjouit de poursuivre sa collaboration avec eux afin d'assurer le bon fonctionnement du système de justice pénale. C'était les grandes réformes du code criminel visant à protéger la population canadienne ont désormais force de loi. Un communiqué de presse du ministère de la Justice Canada, paru le 7 juillet 2026 sur le site du gouvernement du Canada.
Pédocriminalité en ligne. Un dossier de Justine Bouchard-Girard paru le 1er août 2026 dans Le Devoir. Premier texte, la face cachée de l'exploitation et des abus sexuels d'enfants en ligne. Du jeu de vérité conséquence, en passant par le grooming et le chantage sexuel, les pédocriminels sur Internet multiplient les tactiques pour exploiter sexuellement leurs victimes mineures, de plus en plus nombreuses. Ces cybercrimes laissent des traces, pas seulement numériques. C'est tellement sournois, on ne pense pas à tous les risques qu'il y a sur les réseaux sociaux, déplore Marissa Maria Casadelis, qui pratique le droit depuis près de 10 ans. Le Devoir a rencontré la procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales dans son bureau, unique en son genre. Toutou, balles anti-stress et bonbons se mélangent aux dossiers et aux diplômes. Maître Casadelis côtoie depuis plus de 3 ans à Montréal des victimes mineures de cyberprédateurs. Ce ne sont pas que les jeunes vulnérables qui sont exploités sexuellement sur Internet, souligne-t-elle. Ça se passe dans tout type de famille et de circonstances, soutient Maître Casadelis. Des apparences trompeuses. En ligne, le modus operandi des pédocriminels dépend de l'âge de leurs victimes, mentionne l'avocate. Plusieurs cyberprédateurs utilisent la technique du « grooming ». Ils gagnent graduellement la confiance d'un mineur en créant un lien d'amitié avec lui pour pouvoir le manipuler plus facilement et éventuellement l'exploiter sexuellement, explique Maître Casadelis. Chez les plus jeunes, le jeu est souvent utilisé, notamment celui de vérité-conséquence, constate-t-elle. Par exemple, en choisissant « vérité », l'enfant est amené à dévoiler des informations confidentielles. En choisissant « conséquence », il peut se faire donner le défi de partager des images ou des vidéos intimes. Les pédocriminels en ligne ne sont pas nécessairement des multirécidivistes, comme dans les films et les séries, confie la procureure. C'est souvent des gens qui n'ont pas eu d'embûche avec la justice dans le passé. Les tribunaux mettent ainsi en garde les juges de sorte qu'ils n'accordent pas trop d'importance à l'absence d'antécédents judiciaires pour déterminer la peine dans ce type de crime, soutient Maître Casadelis. Un véritable fléau. René Morin, porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance, CCPE, s'indigne de voir qu'il y a une hausse des signalements année après année, en lien avec les cybercrimes pédosexuels. Le leurre d'enfants au moyen d'Internet, soit communiqué en ligne avec ceux-ci dans un but sexuel, en est un bon exemple. Il y a aussi une augmentation massive de la sextorsion, souligne René Morin, en se basant sur les données de cyberaide.ca, la centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation et d'abus sexuels d'enfants sur Internet. Ce service, géré par le CCPE, fait le pont entre le grand public et certaines autorités gouvernementales, comme les corps policiers. Jacques Marcoux, directeur de la recherche et de l'analyse du CCPE, note que, depuis 2020, cyberaide.ca a reçu plus de 16 000 signalements de sextorsion. Les garçons sont plus ciblés pour une question d'argent parce qu'ils sont plus enclins à payer si le pédocriminel menace de diffuser des photos et vidéos intimes d'eux, précise René Morin, tandis que les filles se font surtout extorquer du contenu sexuel. René Morin mentionne aussi qu'en raison de l'avènement de l'intelligence artificielle, la centrale reçoit de plus en plus de signalements d'adolescents qui se font voler des images sur leurs comptes de médias sociaux. Maintenant, dans plusieurs cas de sextorsion, les cyberprédateurs prennent une image innocente de l'enfant et grâce à l'IA, le mettent en scène dans des photos ou des vidéos à caractère pédopornographique, avertit le porte-parole du CCPE. De nombreux pédocriminels se servent donc d'hypertrucages sexuels pour faire chanter leurs victimes. Frédéric Martineau, commandant à la section de l'exploitation sexuelle au service de police de la Ville de Montréal, SPVM, souligne toutefois que ce qui est beaucoup plus commun que le recours à l'intelligence artificielle, c'est une personne mineure qui s'expose elle-même sous la demande, pensant avoir affaire à une personne de son âge. Aider les victimes. Chez les victimes, troubles du comportement alimentaire, automutilation et dépression font partie des conséquences mentionnées par les experts. Dans ce contexte, Christina Vlachos, lieutenante détective au sein de l'équipe de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet au SPVM, mentionne que la priorité de son unité policière est de sauver des vies. On peut avoir des enfants en grande détresse qui ont des pensées suicidaires, alors on doit s'assurer que la victime est bien sécurisée, bien entourée, précise-t-elle. Quand ces jeunes sont pris pour cible, leur confiance en soi ainsi que leur rapport à l'image et à la sexualité sont atteints, affirme Marie-Christine Villeneuve, coordonnatrice aux communications et relations publiques pour le réseau des CAVAC. L'organisme offre des services juridiques et psychosociaux gratuits aux personnes victimes d'actes criminels, à leurs proches et aux témoins. Au même titre que toute violence sexuelle, c'est vraiment un rapport à l'intimité qui va être chamboulé, observe Mme Villeneuve. La détresse vécue est aussi accentuée par la crainte de voir leurs photos ou vidéos intimes ressurgir des années plus tard. Elle souligne également que la pédocriminalité cause des dommages collatéraux, car les parents le vivent comme un échec de ne pas avoir été en mesure de protéger leur enfant. Elle incite les proches à aller chercher, eux aussi, du soutien aux besoins. Créer un lien de confiance avec son enfant est primordial, selon Maître Casadelis. Elle estime que cela va inciter le mineur à venir se confier s'il vit quelque chose sur Internet. La lieutenante détective Christina Vlachos soutient que les corps policiers, le gouvernement, les écoles et les parents ont une responsabilité collective face à ce fléau. Si tout le monde travaille ensemble, on risque d'être capable d'en venir à bout, de voir une différence. Vous écoutez Pédocriminalité en ligne, un dossier de Justine Bouchard-Girard, paru le 1er août 2026 dans Le Devoir. Deuxième texte, Instagram est un réservoir infini d'images de mineurs. Les mineurs tombent sous les griffes de pédocriminels sur de nombreuses plateformes, mais une en particulier, Instagram, préoccupe la centrale canadienne qui collige des signalements liés au cybercrime pédosexuel. Ce réseau social fourmille de comptes familiaux et de profils d'adolescents. Selon des données obtenues par Le Devoir auprès du Centre canadien de protection de l'enfance, CCPE, Instagram est la plateforme la plus citée depuis 2020 dans les sextorsions rapportées à la Centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation et d'abus sexuels d'enfants sur Internet. Un cas de chantage sexuel peut impliquer une ou plusieurs plateformes, précise Jacques Marcoux, directeur de la recherche et de l'analyse du CCPE. Le premier contact se fait d'ailleurs souvent sur Instagram dans les cas de sextorsion, car cette plateforme permet aux cyberprédateurs d'avoir plus d'informations sur la victime grâce notamment à ses publications et à ses comptes suivis, souligne René Morin, porte-parole du CCPE. Le pédocriminel se sert des renseignements sur sa cible pour la menacer, par exemple, de partager avec ses proches des images ou des vidéos à caractère sexuel d'elle, si elle refuse de lui envoyer de l'argent ou d'autres contenus intimes. Appel à la prudence. Instagram est un réservoir infini d'images de mineurs, affirme M. Morin. C'est un réseau qui est basé principalement sur l'image. Donc, à partir du moment où vous avez des individus qui s'intéressent aux photos mettant en scène des jeunes, la plateforme devient leur réseau social de choix. M. Morin dénonce le fait que les algorithmes de ce réseau social viennent alimenter certains penchants pédosexuels. Si vous passez votre temps à regarder des photos d'enfants sur Instagram, la plateforme va vous en proposer encore plus, dit-il, indigné. Le porte-parole raconte que certains adultes partagent par fierté leurs enfants sur cette plateforme sans se douter que leurs images peuvent être utilisées à mauvais escient. À partir du moment où le visage d'un enfant est identifiable, le risque commence. Il conseille ainsi aux parents de passer en revue leurs paramètres de confidentialité pour mettre leur compte privé, idéalement, ou au moins pour limiter le public de certaines publications. Selon le porte-parole, un beau geste de sensibilisation est de demander la permission aux jeunes avant de les publier sur les médias. Marissa Maria Casadelis, procureure pour le directeur des poursuites criminelles et pénales, mentionne que certaines photos peuvent paraître innocentes, mais lorsqu'elles sont mises à disposition de tous, ça devient dangereux. Je dis toujours de faire attention aux photos d'enfants qu'on publie sur Internet qui sont en maillot de bain, explique l'avocate, qui pratique le droit depuis près de 10 ans. Elle côtoie maintenant régulièrement au palais de justice de Montréal des victimes mineures de cybercrimes. Au-delà d'Instagram, cyberaide.ca constate que, même si Instagram revient beaucoup dans les signalements, les plateformes utilisées par les pédocriminels sont variées et de plus en plus nombreuses. Le réseau social que Maître Casadelis se voit le plus souvent dans ses dossiers est en fait Snapchat. Elle soutient que les cyberprédateurs choisissent leur plateforme en fonction de leur public cible, enfants ou adolescents. Roblox, TikTok et Discord commencent à être de plus en plus populaires chez les pédocriminels, observe l'avocate. La centrale canadienne note d'ailleurs que TikTok, une plateforme consacrée essentiellement au partage de vidéos courtes, a été la plus citée dans les cas de sextorsion au cours des 18 derniers mois. Le problème qu'on chante sur tous les toits depuis des années, c'est que les médias sociaux ont pas mal le champ libre, affirme René Morin. Responsabiliser les plateformes. M. Morin indique qu'à l'heure actuelle, certaines plateformes privilégient encore les clics, donc les profits, au détriment de la sécurité des mineurs. D'où l'importance, selon lui, d'intervenir du côté législatif pour mettre des balises aux opérateurs de médias sociaux. Les plateformes devraient être obligées de disposer d'un effectif de modérateurs humains qui est proportionnel à leur importance, fait-il valoir en donnant l'exemple d'Instagram, qui compte 3 milliards d'utilisateurs mensuels. M. Morin estime qu'une intervention humaine pourrait compenser les lacunes de la modération réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle et d'autres technologies. Il considère également que le projet de loi du fédéral visant à restreindre l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans est un bon début pour réduire les cybercrimes pédosexuels. Il fait toutefois remarquer que ce n'est pas parfait, car, avec cette loi, un jeune de 14 ans pourrait quand même aller sur les médias sociaux. Il ne pourrait juste pas avoir de compte personnel. C'était Pédocriminalité en ligne, un dossier de Justine Bouchard-Girard paru le 1er août 2026 dans Le Devoir.
La Lune a une queue, comme les comètes. Un texte de la rédaction paru le 20 janvier 2024 dans Québec Science. La Lune n'est pas qu'une boule rocheuse tournant autour de la Terre. Comme une comète, elle possède une queue d'une belle couleur orange, mais elle est invisible à l'œil nu. Avez-vous déjà observé une comète? C'est un corps céleste fascinant qu'on distingue grâce à une queue majestueuse qui s'étend dans le ciel. Mais les comètes ne seraient pas les seules à avoir une queue.
notre lune en aurait aussi une. Les circonstances de cette découverte remontent à 1998, lorsque des chercheurs observaient la pluie de météores des Léonides. Cet événement est observable chaque année, au mois de novembre. L'équipe a utilisé une caméra à haute puissance dirigée dans la direction opposée à la Lune pour observer les météores. Ils ont alors remarqué un faisceau orange dans le ciel. Grâce à des caméras spécialisées, ils ont analysé que ce faisceau est composé de sodium. Mais d'où provenait ce faisceau? En approfondissant leurs recherches et en effectuant des simulations sur ordinateur, les chercheurs ont découvert que ce faisceau provient de la Lune. L'explication réside dans la présence de sodium à sa surface. La Lune a une atmosphère excessivement fine, voire absente, en comparaison avec la Terre. Or, c'est l'atmosphère qui sert de bouclier à notre planète contre les météorites qui pourraient s'écraser. Comme la Lune n'a pas de bouclier, elle est régulièrement l'objet d'impacts de météorites. C'est pour cette raison qu'on observe de nombreux cratères à sa surface. Ces impacts soulèvent les particules de sodium du sol qui échappent à la gravité et se dispersent dans l'espace. Elles sont ensuite emportées par les courants générés par le soleil, qu'on appelle le vent solaire. Cette queue de sodium est donc dirigée constamment à l'opposé du soleil. Lorsque la Lune se trouve pile-poil entre nous et le soleil, nous baignons alors dans la queue de sodium qui s'enroule autour de la Terre, influencée par sa gravité. L'intensité de cette queue varie en fonction du nombre et de la puissance des impacts de météorites, mais elle est toujours trop faible pour qu'on la voie à l'œil nu. La queue orange pourrait devenir visible à l'œil nu si un jour une météorite massive s'écrase sur la Lune, soulevant suffisamment de sodium. Gardons donc un œil attentif sur notre satellite naturel. On ne sait jamais. C'était « La Lune a une queue, comme les comètes », un texte de la rédaction paru le 20 janvier 2024 dans Québec Science.